L'homme élastique. On en était au cigare. C'était le doux moment où, les pieds sur les bâtons de la chaise de son voisin, le dos commodément appuyé, on prête une oreille complaisante au conte d'un dessert prolongé. Gustave D., invité à fournir son historiette à son tour, s'inclina vers nous, l'œil brillant, et parla ainsi avec fébrilité. Vous avez tous lu Balzac, vous connaissez donc Louis Lambert, le fou par amour et sa fin déplorable. Eh bien, mes amis, un jour, ma raison fut bien près de tomber dans cet effroyable abîme, l'aliénation mentale, dont on la retire bien rarement. Voici le fait. Il y a 2 mois, la veille de Noël, M. Z, celui qui doit bientôt être mon beau-père, me fit mander. J'allais chez lui. Et là, j'appris que ma profession et ma pauvre diablerie n'étaient plus un obstacle insurmontable à ses yeux. Et bref, que la main tant et si ardemment désirée de sa fille était à moi. « Dans 8 jours, me dit-il, nous publierons le premier banc. » Cette nouvelle renversante, si peu attendue, me donna un rude coup. « Oh oui, j'aimais Mademoiselle Z depuis 2 ans. » Et depuis 2 ans, malgré larmes et prières, la pauvre enfant, cruellement repoussée par son père, me disait de l'oublier. Quelle ascension rapide et dangereuse de l'extrême désespoir à la joie intense. Pendant 1 heure après l'entretien, je fus certainement fou, fou allié. J'arpentais les rues avec rage, au hasard, me tenant à 4 pour ne pas hurler. J'étouffais, en outre. Je ne rencontrais pas un ami sur les boulevards. Oh, s'il avait pu m'épancher, empêcher ainsi mon cœur gonflé de se rompre. Mais non, je fus obligé de garder mon cher secret pour moi tout seul. Cela me fit mal, un horrible mal. Le soir de ce jour ravissant, je me rendis, comme de coutume, à mon pauvre restaurant. Vous êtes venu souvent, c'est là-bas, sur le quai près de la rue Violet de Palais. De la fenêtre cintrée du cabinet où nous avons tant ri jadis, on voit la Seine et, pendant l'été, les sublimes couchers du plus beau soleil du monde, l'adorable soleil du pays où l'on aime. À ma table se trouvait, avant mon arrivée, un monsieur très sec, très râpé, mais au regard profond et brillant, une lumière au fond d'un puits. Nous nous examinâmes. Un échange de poivre et de sel amena la conversation. Elle fut longue. On parla du temps, que je trouvais charmant, quoiqu'il bruinât depuis le matin, et du temps, on passa à autre sujet, que l'horloge marquait 9 heures lorsque nous descendîmes sur le quai. « Un cigare ?» me dit-il. « Volontiers, avez-vous du feu ?»« Non, mais tenez !» En prononçant ce mot, il plia un petit morceau de papier en forme d'allumette, et me montrant le bec de gaz sous lequel nous étions arrêtés, il allongea la main vers lui. La main s'allongea démesurément, atteignit la lanterne, ouvrit la vitre et finalement alluma le papier. Je me mis à rire singulièrement. Il retira sa main énorme avec un mouvement identique et lorsque, de la grosseur d'un grand rouge à la porte d'un grantier de province, elle fut ramenée aux proportions du 7-24 d'un homme bien constitué, il m'offrit gracieusement le feu obtenu d'une façon aussi suspecte. Je riais toujours, mais il me sembla que la température s'abaissait sensiblement. Je grelottais. « Ce n'est pas plus difficile que ça, » reprit enfin l'inconnu en tirant de larges bouffées de fumée. « Bah, mais cela vous étonne, enfant amoureux que vous êtes. Je vous en ferai voir bien d'autres. Je peux tout. Je suis l'homme élastique. » J'ai fait le voyage de Paris à Alexandrie dans un carton à chapeau, c'est vrai. Mais en revanche, de Liverpool à New York, je suis occupé à moi seul le Léviathan. Les nuits de décembre sont glacées. celle-là me parut sibérienne. Pour que j'avais froid. Marchons, lui dis-je. Halt, halt, je tiens à vous abuser, reprit l'inconnu, maigre et mal vêtu, qui m'accompagnait. Voyez-vous, de l'autre côté de la rivière, sur lequel en face un gros monsieur qui passe, cette forme noire, là-bas. Oui, parfaitement. Et voyez-vous derrière lui, à quelques pas, sous un parapluie protecteur immoral, un couple d'amoureux qui marche doucement, n'échangeant probablement... Oui, les voix au baiser près. Eh bien, vous allez rire. Et le bras de ma diabolique connaissance s'allongea subitement. En une seconde, il eut 10 mètres de longueur. L'instant d'après, il planait sur le fleuve sombre au bruit triste. Et bientôt, il atteignit l'autre parapet. Qui se retourna bien étonné, ce fut le gros monsieur, dont le chapeau enlevé tout à coup, alla se planter sur la pointe du parapluie des amoureux qu'il suivait. Mais qui fut plus grandement étonné encore ? Ce fut le couple lui-même, en reconnaissant dans le décoiffé, qui se précipitait vers lui pour réclamer sa parure, un mari jaloux et courroucé. Ainsi me l'expliqua mon jovial camarade. Il était bien gai, ce monsieur. Moi, je riais du bout des dents, et ce rire-là les faisait claquer, ma parole. Boum ! C'était fort drôle, en vérité. Et nous reprîmes notre entretien. Et que vous prouve mon élasticité ? Me demanda-t-il. Bien, d'abord que votre puissance est immense, et par suite que vous avez des secrets qui doivent faire froncer le sourcil de Dieu, si vous êtes une créature humaine. Je conserve ma petite autonomie à côté de lui, voilà tout. En effet, au point de vue humain, je peux tout. Je fais de l'or. De l'or ? Oui, de l'or. Les cieux du genre humain, l'or. Un joli mot, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Eh bien, je veux vous faire cadeau d'un peu d'or. Vous me plaisez, et d'ailleurs, j'ai un service à vous demander. À moi ? Oui. C'est la nuit de Noël, bientôt, j'ai ma cheminée à garnir. Prêtez-moi vos souliers. Mes souliers ? Oui, c'est une fantaisie. Je vous paierai leur location 1 million en or luisant comme basilic. Mes souliers ? Eh oui, prêtez-les-moi jusqu'à demain matin. À 10 heures, vos chaussures parfaitement cirées seront chez vous, et vos tiroirs pleins à déborder ruisselleront sous vos yeux. Mais si vous me trompiez, c'est que je n'ai que cette unique paire de souliers, savez-vous. Soyez sans crainte, je tiens ma parole, toujours. Nous nous séparâmes, poursuivit Gustave D., plus rouge et plus animé que jamais. Le lendemain, plein de confiance, je promenais en me réveillant mes yeux par la chambre. Pas de souliers. Je fus diablement embarrassé. Je devais aller chez ma fiancée le matin même. Et juste au bon moment, mon fausseur d'or me faussait compagnie. Cruel ennui. Rendez-vous était pris. On m'attendait pour déjeuner. L'horrible filou. Oh, je le maudis pendant 1 heure. Puis, moins patient que sœur Anne, et surtout plus pauvre qu'elle, je résolus de partir malgré ce contretemps assez grave. Je sortis pieds nus. Les rues étaient boueuses, mes pieds devinrent hideux. Les gamins me suivaient. Il a fait un pari. Ouais, ouais, le juif errant. Alors je suis en lit. Cela me faisait de la peine de les entendre s'exprimer ainsi. Un bourgeois me fit remarquer la nudité de mes infortunés pieds. Je le remerciai de son attention. « Mais que voulez-vous ? » lui dis-je. « Le voleur ne m'a pas rapporté mes bottes. » On s'amassait autour de nous. J'avais très froid, plus froid que la veille. Un cercle de fer me martyrisait le crâne. Je ressentais aussi une vive douleur de la racine du nez. Un sergent de ville m'arrêta et m'interrogea sévèrement. Je lui répondis que cela ne m'arriverait plus et que j'étais très pressé. Il me prit doucement par le bras et me pria de le suivre chez un cordonnier. Bouh, que j'avais froid! Partout, je voyais des yeux de toutes les couleurs fixés sur moi, et cela me faisait peur. Enfin, un ami me rencontra. Ah, que n'était-il venu la veille sur mon chemin? Il parla bas au sergent de ville. Je crus entendre « Laissez-le, il est sourd. » Pauvre ami, comme il se trompait. J'avais rien bu, non, rien, je le jure. On prit d'un fiacre. La chaleur me revint. Je me sentis bien heureux et je pleurais toutes les larmes que je gardais depuis la veille sous mes paupières. Mais j'avais attrapé un rhume très violent et l'on dut me conduire ici, chez ce brave docteur Blanche, pour me faire soigner. Ça va mieux, heureusement. Dans quelques jours, j'irai rejoindre ma fiancée. Elle a dû trouver le temps long, la charmante fille. Pauvre Gustave D. Voilà 6 ans qu'il se fait traiter pour son rhume dans la maison de santé du docteur Blanche. Nous allons dîner avec lui quelques fois, et chaque fois, invariablement, il nous raconte son histoire, en ajoutant un mot bien affreux à la fin de son récit, et qui fait froid venant de lui. « Prenez garde au rhume de cerveau !»